Nous continuons notre série sur les uns les autres. Et pour introduire notre thème du jour, je vous propose de lire un texte de l'apôtre Paul dans la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse, à partir du chapitre 5. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Le volet que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la soumission. Soumettez-vous les uns aux autres, proclame notre texte. Voici notre invitation pour ce matin. Mais alors, on pourrait se dire avant même de démarrer que nous n'allons peut-être pas trouver ici la partie la plus emballante de notre programme sur les uns les autres. Car l'idée de la soumission au XXIe siècle, ça fait quand même plus très envie. Et la perspective de sa mise en pratique dans nos vies pourrait même nous faire un peu froid dans le dos. On pense notamment à une certaine vision de cette soumission qui est véhiculée dans notre monde par l'islam, par exemple. C'est aussi à cela que nous appelle la Bible. Et en plus, difficulté supplémentaire, ce commandement, lu de la sorte, eh bien, vous serez d'accord avec moi, mais c'est presque un non-sens logique, en fait, quand on y réfléchit. Oui, comment l'action de se soumettre, qui induit par définition une forme d'autorité différenciée entre les personnes, l'une soumise à l'autre, comment cela pourrait-il être une action réciproque ? On a du mal à comprendre. Alors, à quoi nous invite vraiment l'Écriture ? Puisqu'elle parle donc de soumission réciproque, est-ce que cela veut dire d'abord qu'elle cherche à remettre le concept même de l'autorité en question ? Vous voyez, plus personne n'a d'autorité sur personne, puisque tout le monde est soumis à tout le monde. Ce pourrait être tentant comme idée. Mais non, la Bible ne dit absolument pas ça. Au contraire, elle maintient explicitement certaines figures d'autorité. Mais par contre, au cœur justement du maintien de ces figures, elle vient nous enseigner le principe de la soumission réciproque. Et ça, c'est vraiment remarquable, me semble-t-il. Et ça pourrait en tout cas changer beaucoup de choses dans l'idée que l'on se fait de ce mot. Ce que nous allons essayer de développer ce matin. En fait, la Bible nous présente quatre lieux d'autorité différents. Les trois premiers, et c'est très fort à relever, nous sont présentés à la suite immédiate de cet appel à la soumission réciproque. Preuve évidente de leur lien. Donc. Et le dernier provient pour sa part de la lettre aux Hébreux. Nous les lisons ensemble. Je me suis juste permis de faire quelques coupures pour ne pas trop allonger la lecture. Nous redémarrons là où nous nous sommes arrêtés. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. On continue. Deuxième lieu. Vous, enfants, Obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Troisième lieu, vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Et le dernier passage et dernier cas, donc, dans Hébreu, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Mari et femme, parents et enfants, maîtres et esclaves, ou peut-être pourrions-nous dire, pour le rendre un peu plus actuel, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, patron et employé, et enfin, responsable et membre d'église. Quatre exemples utilisés par les auteurs bibliques dans des contextes donc où il existe un décalage d'autorité pour venir expliquer et illustrer ce concept de la soumission mutuelle que nous sommes tous appelés à vivre les uns avec les autres. Je vous propose le plan suivant pour réfléchir à cette question. Tout d'abord, en nous plaçant tour à tour du côté de la figure d'autorité, puis de la figure subordonnée, nous allons essayer de voir ce que veut dire concrètement la soumission à l'autre. Afin simplement d'en dégager une ligne directrice commune et valable pour tous et en toute occasion. Puis ensuite, nous aborderons la question obligée ici, je crois, des limites éventuelles à la soumission. Et enfin, nous conclurons avec quelques encouragements que nous laisse notre passage pour mettre tout cela en pratique. Nous démarrons, et nous démarrons donc d'abord avec la soumission de la figure d'autorité, à savoir mari, parent, patron, responsable. Avec cette question un peu paradoxale qui surgit. Mais comment peut-on détenir l'autorité voulue par Dieu et en même temps être soumis à l'autre? Eh bien, c'est Jésus qui va venir nous apporter la réponse à cette interrogation. Lui, on l'a lu, qui est pourtant le chef de l'Église, mais qui a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu. Se soumettre quand on a l'autorité, c'est donc, selon l'exemple de Jésus, ni plus ni moins que donner sa vie pour l'autre. C'est littéralement se mettre sous, c'est-à-dire prendre la condition de serviteur, se subordonner volontairement. Voilà ce qu'est appelé à faire celui qui est mis par Dieu en position d'autorité. Mourir à soi-même, oui, afin de chercher constamment le bien de l'autre. Porter dans son cœur la volonté et l'objectif du bien de l'autre. En assumer la responsabilité, autant que ça puisse lui appartenir, bien sûr, et accepter même de devoir en répondre devant Dieu. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Alors, comment prendre la mesure de tout ça? Eh bien, dans nos quatre illustrations, je me dis que c'est peut-être le lien parent-enfant qui va nous permettre de cerner le plus facilement ce que veut dire concrètement se subordonner volontairement au bien de l'autre. Car après tout, n'est-ce pas là ce que fait toujours naturellement un bon père ou une bonne mère? Taire ses propres aspirations et ses propres désirs pour ceux de ses enfants. Conditionner, avant de se donner le droit de penser à soi, son emploi du temps et sa vie au bien de ses enfants. Se mettre sous leur intérêt, se soumettre à leur intérêt. Je connais beaucoup de parents, croyants ou non, qui agissent ainsi. Oh, tous ne le font pas, bien sûr, je sais, mais beaucoup, néanmoins, l'ont compris. Ils savent tout simplement que c'est là leur responsabilité de parents. Et ils se dévouent donc à cette responsabilité. Mais par contre, une telle attitude dévouée à l'autre est peut-être moins innée, je dirais, dans les autres domaines. Pourtant, il devrait évidemment en être de même. Oui, par exemple, un croyant en position de responsabilité dans son travail ou dans l'Église, s'il veut réellement imiter Jésus dans cette autorité qu'il détient, devrait toujours penser aux intérêts de ceux dont il a la charge et non aux siens. Le faisons-nous ? Le faisons-nous si nous sommes effectivement dans un lieu particulier de notre vie, dans une telle situation ? Et il y en a plus qu'on le pense, sans aucun doute. Le prof avec ses élèves, le chef de projet avec ses collaborateurs, le directeur avec son équipe, le responsable d'activité dans l'Église avec ses frères et sœurs, et ainsi de suite. Oui, sommes-nous dans de telles situations réellement focalisés sur le bien de ceux que l'on dirige ? Ou alors cherchons-nous plutôt, à travers cette position, notre propre intérêt, notre propre réussite, notre propre mise en valeur ? Ce n'est pas une question anodine, je crois. Et puis, dernier cas, là aussi, loin d'être naturel, c'est l'exemple du mari envers sa femme. Alors, on pourra toujours discuter, bien sûr, de ce qu'on entend par cette idée que le mari détient une forme d'autorité. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Prenons juste fait que l'Écriture affirme cela. Mais par contre, nous, ce que nous devrions vouloir regarder, c'est ce qu'implique cette autorité. Parce que c'est ça qui est mis en avant dans le texte. Oui, comment un époux est-il appelé à mettre concrètement en application le modèle laissé par Jésus ? Eh bien, ce sera en comprenant qu'en nous mariant, et je parle donc ici quelques instants spécifiquement au mari, bien sûr, mais en nous mariant, nous avons pris l'engagement devant Dieu de faire tous les efforts et sacrifices nécessaires dans notre vie pour rechercher le bien affectif, social, spirituel de notre femme avant le nôtre. Son bien affectif d'abord, en étant là pour elle, disponible pour passer du temps avec elle, en trouvant notre plaisir en elle et en le lui faisant sentir. Son bien social ensuite, en nous intéressant concrètement à sa vie, à son rôle de mère éventuellement, à son travail, à son service dans l'Église, en ayant à cœur qu'elle s'épanouisse dans ces choses et en prenant le temps de l'y encourager. Et puis, son bien spirituel, ne le laissons surtout pas de côté, chers amis, en priant constamment pour sa marche avec Dieu et en réfléchissant sérieusement à comment favoriser de notre côté sa croissance, à comment lui permettre de mieux connaître Jésus et de mieux lui ressembler, et en agissant concrètement dans ce sens. Un vaste et riche programme pour nous, messieurs. Mais ce n'est pas moins que Dieu attend de nous. Il veut que l'on se soumette de la sorte au bien de notre épouse. Et de la même manière, donc, dans tous les autres domaines, c'est aussi cela, cette recherche constante du bien de l'autre, que Dieu attend toujours de nous, quelle que soit la figure d'autorité que nous sommes. À l'image simplement de ce qu'a fait notre chef Jésus-Christ. Voilà pour ce premier point. Mais alors, qu'en est-il maintenant de la personne qui est sous l'autorité ? Cette soumission pourrait nous paraître plus naturelle, puisqu'elle correspond davantage à la structure normale dans laquelle on comprend ce terme. Mais qu'en est-il plus précisément ? Eh bien, c'est encore une fois Jésus qui va venir nous apporter la réponse. Car lui aussi, quel merveilleux représentant avons-nous ? Lui aussi connaît cette position subordonnée. On l'oublierait presque parfois. Mais pourtant, Paul dit, « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Oui, la Bible nous l'apprend, Jésus est entièrement soumis à l'autorité de son Père. Entièrement au point qu'il dira, « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Une soumission tellement paisible, mais en même temps tellement complète, qui transparaît dans ces versets. Et un exemple à suivre, sans aucun doute. Mais avant de le suivre, on pourrait quand même se demander... Mais pourquoi, après tout, une telle soumission? Qu'est-ce qui la motive? Et il nous faut comprendre ça, si on veut vouloir le vivre aussi réellement de notre côté. Eh bien, la réponse nous est donnée un peu plus loin dans l'évangile de Jean. « J'aime le Père, dit Jésus, et donc j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » Oui, c'est parce que Jésus aime Dieu. Et pour nulle autre raison, qu'il veut lui être entièrement soumis. Et ainsi, à sa suite, c'est parce qu'elle aime qu'une personne dans une telle situation pourra suivre celui qu'elle aime, sans regarder à ses propres désirs, comme dit le texte. Et là aussi, on s'en rend compte, ce n'est pas rien, loin de là. Mais voilà, en tout cas, vous l'aurez noté avec moi, que s'opère ici devant nos yeux un étonnant renversement concernant notre question du jour. Je garde, pour qu'on comprenne bien, juste ici l'exemple du mari et de la femme. Regardez, aux époux, il est commandé d'aimer. Mais nous découvrons que c'est seulement en se soumettant au bien de leur femme qu'ils pourront réaliser cela, à l'image de ce que Jésus fait avec l'Église. Alors qu'aux épouses, il est commandé de se soumettre, mais nous découvrons que c'est seulement en aimant leur mari qu'elles pourront parvenir à cela, à l'image aussi de ce que Jésus vit, de ce que Jésus fait, pardon, avec son Père. Et petit à petit, nous commençons donc à comprendre à travers ces exemples ce qu'est au fond la soumission réciproque. C'est tout simplement, en fait, je dirais, un amour réciproque intense qui s'inscrit au cœur du rôle que Dieu a confié à chacun. C'est un amour réciproque qui se manifeste à travers la mission que Dieu nous confie pour l'autre. Mais il y a ici, me semble-t-il, un véritable cercle vertueux qui est en train de s'ouvrir devant nous. Car le mari, qui donne littéralement tout pour sa femme, ne pourra qu'encourager celle-ci à marcher fermement à ses côtés. Tandis qu'elle, en l'aimant et le suivant contre vents et marées, ne pourra que le faire grandir dans sa volonté de chercher son bien à elle avec consécration. Le fils qui voit ses parents prêts à mourir pour son intérêt, accueillera avec beaucoup plus de confiance leur conseil. Tandis que ces mêmes parents, encouragés par cette marque de confiance, redoubleront alors d'efforts pour le conduire dans ce qui est vraiment bon pour lui et pas pour eux. Ou encore, le responsable qui prend fait et cause pour les siens ne pourra que faire croître en eux le respect et la loyauté, tandis que de telles attitudes chez ceux qu'il dirige ne pourront que l'encourager à poursuivre encore plus résolument dans cette même direction. Et ainsi de suite. Oui, voici le cercle vertueux de la soumission réciproque. Et c'est donc ici, dans ce cercle, que nous allons trouver la ligne directrice à suivre les uns avec les autres, dans tous nos différents lieux d'interaction, et dans tous nos rôles et dons différents aux uns et aux autres. Dans toutes ces situations, nous voulons nous soumettre, chacun l'un à l'autre. C'est-à-dire que nous voulons, au moyen du rôle particulier que Dieu nous a confié, agir en tout temps pour le bien de l'autre et lui manifester ainsi notre amour. Mais c'est une démarche assez radicale, nous nous en rendons bien compte. Accepter de se soumettre volontairement au bien de quelqu'un d'autre. Et de toute façon, ne peut être qu'une attitude radicale. Mais en même temps, je me dis, comment pourrait-il en être autrement chez tous ceux qui proclament suivre un sauveur qui a aimé à ce point radicalement? Alors oui, puissions-nous, par amour pour Dieu, ou, comme dit le texte à plusieurs reprises, même juste par allégeance, juste parce que nous révérons le Christ, juste par égard pour lui, puissions-nous oser entrer et persévérer dans une telle dynamique de vie tournée vers l'autre. Ce qui m'amène à notre image du jour. Une image, nous avons une image pour chaque dimension des uns les autres. Alors nous avons déjà la vitrine pour « aimez-vous les uns les autres ». Une vitrine qui est appelée à donner envie. Nous avons le fagot de bois pour « accueillez-vous les uns les autres ». Un fagot qui traduit notre volonté de recevoir l'autre dans ses fragilités afin d'être plus forts ensemble. Nous avons encore le cocon qui tout à la fois nous protège et nous fait grandir pour « encouragez-vous les uns les autres ». Et maintenant, pour notre thème aujourd'hui, je voudrais vous proposer l'image suivante. Je trouve que c'est une image qui représente assez bien cette idée de s'abaisser volontairement pour le bien de l'autre, comme Jésus l'a fait. Et on pourra penser, bien sûr, cette image nous y fait penser sans doute à cet épisode marquant où il lave, lui le maître, les pieds de ses disciples. Voilà en tout cas pour cet appel qui nous est lancé. Mais, on continue juste un peu, face à cette réalité, on est quand même obligé, avant de conclure, de se poser la question suivante. Une telle démarche radicale de soumission à l'autre doit-elle avoir une limite? Alors il y a bien sûr la limite de nos propres forces et de nos propres capacités, ça c'est certain. Mais se pourrait-il qu'il y ait une autre limite? J'entends notamment quand cette attitude de soumission n'est pas réciproque. Autrement dit, devons-nous conditionner notre don à celui de l'autre? De peur, juste sinon, qu'une démarche à sens unique vienne se révéler plus destructrice qu'autre chose. Et on entend le bien fondé de cette crainte. Eh bien, la première réponse qu'on pourra sans doute faire à cette question difficile est que non. Non, il ne nous faudra probablement pas attendre de recevoir une soumission équivalente avant de vouloir offrir la nôtre. Il ne me semble pas en tout cas que les textes bibliques nous encouragent dans ce sens. Au contraire, en fait, il nous pousse toujours au premier pas, et même au premier pas au pluriel, à de nombreux et multiples premiers pas. Il nous pousse, par exemple, à persévérer à rechercher le bien d'un enfant, même si celui-ci ne témoigne plus aucune reconnaissance. Il nous pousse à persister et suivre un mari, même si celui-ci ne s'implique plus vraiment dans la vie de son épouse. Il nous pousse à choisir de continuer à obéir fidèlement à un patron, même si celui-ci ne fait plus grand cas de ses employés, et ainsi de suite. Oui, je crois que la radicalité biblique nous incite vraiment à ouvrir nos cœurs aux autres, jusqu'à accepter parfois même de nous laisser transpercer par eux. comme Jésus, une fois de plus. Mais ce faisant, il pourrait toutefois y avoir une certaine limite. C'est ce que nous laissent penser, en tout cas, plusieurs exemples des prophètes de l'Ancien Testament, des apôtres et même de Jésus. Cette limite, nous la trouverons quand nous serons face à un mépris évident de Dieu et de sa loi. Quand, par exemple, ma soumission m'amènerait à désobéir au commandement divin, mentir pour couvrir les agissements de ma hiérarchie, me taire face à une injustice flagrante. Ou alors, quand ma soumission irait à l'encontre de la dignité et de la valeur même de chaque être humain devant Dieu, nous y compris. Et on pourra penser ici, bien évidemment, au cas des violences conjugales ou parentales, qu'elles soient physiques ou morales, aux abus d'autorité de toutes sortes, au refus de donner à l'autre la place de s'exprimer, d'être libre, d'exister, bref, de vivre tout simplement. Oui, dans tous ces cas, c'est plutôt l'insoumission qui serait de rigueur. Mais alors, bien sûr, on le devine, hein, autant certaines situations pourront nous paraître claires, autant pour bien d'autres, savoir si la limite est franchie ou pas sera plus flou. Et la Bible, malheureusement, ne nous fournit pas un manuel tout fait pour prévenir à toute situation de ce genre. Mais néanmoins, elle nous rappelle quand même quelques constantes, toujours valables. La première sera certainement d'évaluer d'abord le plus honnêtement possible en nous-mêmes nos motivations et de les mettre à la lumière de l'Écriture. Qu'est-ce qui me pousse vraiment au fond de moi à ne pas vouloir me soumettre dans cette situation particulière? Qu'est-ce que ceci me semble conforme à l'enseignement biblique dans son ensemble? Et nul doute qu'ici, le regard et l'éclairage de nos frères et sœurs pourraient nous être bien utiles. Et puis, l'autre constante sera simplement de prier avec ferveur et persévérance pour la sagesse et le discernement dans une situation donnée, et de chercher devant Dieu et avec Dieu le meilleur équilibre entre ce principe fort de soumission radicale auquel il nous invite concrètement et les clauses d'exception, vitales parfois. En tout cas, on se rend compte que ce n'est pas une tâche si simple qui nous attend, cet appel à la soumission mutuelle. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui pourrait bien nous motiver et nous donner la force de réellement vouloir marcher dans cette direction? Notre texte d'Éphésiens nous renseigne-t-il là-dessus? Eh bien oui. Oui, ce texte contient pour nous, en guise d'encouragement, un appel et une promesse. Je terminerai notre réflexion là-dessus pour vraiment nous encourager tous, donc, à vouloir vivre ainsi. Ce passage contient tout d'abord un appel. C'est un appel que l'on voit apparaître tout simplement à travers tous les verbes à l'impératif qu'il contient. Ne soyez pas déraisonnables, nous est-il dit. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Femmes, soyez soumises. Maris, aimez vos femmes. Enfants, obéissez. Parents, n'exaspérez pas. Esclaves, obéissez. Maîtres, agissez. Et ainsi de suite. Des verbes à l'impératif qui nous montrent sans ambiguïté que nous avons vraiment quelque chose à faire en la matière et que nous ne pouvons pas nous contenter de dire que c'est difficile. Non. Dans un magnifique verset du livre de Job, Job dit « J'ai fait plier ma volonté pour obéir à tes paroles. » C'est un verset que je vous encourage tous grandement à méditer et à prendre pour inspiration. Je fais plier ma volonté, qui plie rarement d'elle-même, on est d'accord. Mais je la fais plier, de gré ou de force presque. Et à quoi? À ce que tu me demandes dans ta parole. Un appel donc que Dieu nous lance. Mais en parallèle de cet appel, pour lui donner force et vit même. Dieu nous fait également une promesse. C'est une promesse qui sous-tend en fait tout notre passage. Nous la trouvons au début du texte. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, Paul proclame « Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Et le mot-clé, vous l'avez deviné, bien sûr, « ainsi ». Oui, c'est seulement en laissant toute la place à l'Esprit en nous que vivre cette soumission pourra devenir faisable, d'abord, mais même plus, croyons-le, enviable. Car oui, cet Esprit de Jésus qui s'est tellement aimé de la sorte, il l'a si bien démontré quand il est venu tout donner pour nous, quand il est venu mourir pour nos fautes, mourir pour nous faire échapper à la perdition éternelle, mourir pour nous ouvrir le royaume de Dieu. Cet Esprit qui s'est tellement aimé de la sorte, eh bien, il nous est maintenant donné à nous. Il va donc être capable de produire en nous, petit à petit, les mêmes effets. Nous pouvons donc nous réjouir parce que cela veut dire que ce n'est pas une tâche impossible qui nous est demandée. Comme on le dit souvent, ce que Dieu ordonne, il le donne d'abord toujours. Aussi, chers amis, sachant cela, restons près de Dieu. Oui, demeurons au plus près de Dieu dans nos quotidiens, afin de laisser l'occasion à son Esprit d'agir en nous et de nous transformer progressivement. Et je dirais même, désirons qu'il le fasse. Désirons qu'il nous apprenne à nous soumettre ainsi les uns aux autres. Désirons-le vraiment. Pourquoi ? Eh bien, afin juste d'avoir ainsi le privilège de ressembler encore un petit peu plus à notre bien-aimé Sauveur. Que Dieu nous en fasse la grâce et que toute gloire lui soit rendue. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es un Dieu qui aime d'une façon tellement parfaite. Tu nous as aimés à en mourir, tu as tout donné pour nous. Tu as pris, comme dit ta parole, la condition de serviteur pour nous sauver. Et nous voulons d'abord t'exprimer notre reconnaissance pour un amour si grand que tu as manifesté, que tu as osé manifester envers nous. Et en même temps, nous voulons te prier de nous apprendre à te ressembler, Seigneur. De nous apprendre à nous mettre aussi de la sorte au service des autres, à la recherche du bien de l'autre. Apprends-nous à nous décentrer de nous-mêmes pour regarder à l'autre, à son bien. Apprends-nous à agir en ce sens, Seigneur. Je te prie que ton esprit nous remplisse tous et qu'il nous donne tous ensemble la force, l'envie, le désir de mettre en pratique ta parole, de nous soumettre les uns aux autres. Viens nous donner ton esprit pour nous permettre de persévérer également dans cette tâche complexe. Et nous sommes persuadés que cette œuvre que tu commences en nous, tu vas la poursuivre, Père, et tu vas nous donner la force et en même temps le privilège de te ressembler toujours plus. Merci Seigneur, en ton saint nom. Amen.